Et j'ai le grand plaisir de présenter cette session. Mais avant, Rémi Cavenc souhaiterait faire une annonce très rapide. Ah oui, ça, on n'entend pas. Bon, alors Rémi Cavenc va. Ah voilà, c'est
vrai. C'est Ariel Sevilla, c'est pas Rémi Cavenc. Mais enfin.
Bon, donc je
juste une petite annonce, message institutionnel de l'AFS. On a eu tout à l'heure l'élection du CE de l'AFS. À 6h dans l'amphi E aura lieu l'élection du président. Donc je vous invite après cette séance à vous diriger à l'amphi E pour voter. Merci.
On finira peut-être 5 minutes après, vu qu'on démarre un peu, ça ira quand même. Ça.
Bon.
Bien. Nous avons l'autorisation, donc nous pouvons démarrer. Non, merci beaucoup d'être là. Encore une fois, je répète, je suis ravie de vous voir présenter Alban Bensa et Jiro Well pour cette session de semi-plénière. En fait, je présenterai rapidement, pour mettre en perspective leurs interventions, les travaux menés depuis les années 1980, que ce soit en histoire, en sociologie, en sciences politiques ou anthropologie, sur les sociétés des pays à régime communiste ou sur les sociétés de pays colonisés, ont contribué à renouveler les approches sur les formes de la domination de différentes manières. Bon, ça, je vais laisser G et Alban en parler de manière plus précise, mais ce qui est intéressant de bien comprendre, et la confrontation de leurs exposés sera intéressante de ce point de vue-là, c'est que ça a bousculé beaucoup d'habitudes de pensée, beaucoup aussi d'habitudes méthodologiques. Et en fait, ça a remis en chantier différents objets, ça a ouvert, je dis que ça a produit des ouvertures méthodologiques et disciplinaires, ça a bousculé les frontières disciplinaires, et je pense que les deux exposés qui vont suivre seront intéressants justement de ce point de vue-là, parce qu'on va bien voir avec les deux exemples comment tout a pu être bousculé. Donc j'ai Jiro Well, directeur de recherche en sociologie à l'UMR qui s'appelle SAGE maintenant à Strasbourg. Il est connu pour ses travaux sur le logement en RDA, sur les politiques de logement en RDA, mais il travaille aussi sur les questions de la ville, il travaille aussi beaucoup sur la sociologie maintenant de l'Union européenne. Alban Bensa est anthropologue et directeur d'études à l'EHESS. Il est connu pour ses travaux sur la Nouvelle-Calédonie, sur les Kanaks. Mais là, aujourd'hui, Alban va essayer de présenter une intervention qui permette de faire des ponts entre les deux exposés. Il va essayer de caractériser les dominations coloniales par rapport aux dominations qui ne le sont pas. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais laisser la parole d'abord à Jiro Well, en entente avec Alban et G. C'est G qui va démarrer avec un exposé qui a pour titre « La circularité entre le savoir et le pouvoir dans la domination bureaucratique en RDA ».
Merci Martine. Tout le monde m'entend à peu près ? Oui. Je voudrais d'abord remercier évidemment les organisateurs du congrès, et particulièrement Annie Colovald pour cette invitation, donc qui me permet de revisiter des travaux qui sont un petit peu anciens maintenant, mais voilà, qui je pense sont à leur place dans un congrès consacré à la domination. Cette session a été intitulée « Autoritarisme, colonialisme et domination ». Donc il y a évidemment un sous-entendu ou peut-être une attente sous-jacente, à la fois dans le choix du thème et dans le choix des deux situations historiques qui seront abordées ici. C'est l'idée qu'il y aurait une spécificité dans les rapports de domination en situation autoritaire ou dans les contextes coloniaux. Une sorte d'extraterritorialité où on suppose que la nature des rapports de domination ou leur intensité soit différente des contextes démocratiques contemporains. Le choix des contextes historiques semble aller de soi. La Nouvelle-Calédonie, où la domination coloniale s'est exprimée avec une brutalité particulière, ou la RDA, qui est réputée être le pays où la domination communiste s'est exprimée de la manière la plus orthodoxe. Au risque de décevoir certaines attentes, mais peut-être de conforter d'autres, mon point de départ est de considérer que la RDA ne représente pas une configuration de domination par essence différente d'autres États ou organisations bureaucratiques. Je parle plutôt du principe que ce système représente un État bureaucratique moderne, où la logique inscrite dans la forme bureaucratique de la domination est pourtant poussée sans doute plus loin, et donc certains traits caractéristiques de cette forme de domination est peut-être plus visible, mais pas par essence différente. L'objectif est donc en quelque sorte de sortir ces contextes de leur exceptionnalisme méthodologique pour poser un ensemble de questions qu'on trouve dans d'autres contextes travaillés par la sociologie. Traditionnellement, l'analyse du fonctionnement des régimes autoritaires ou totalitaires ne pose pas la question des enjeux du savoir, contrairement aux colonial studies ou à l'anthropologie, où les techniques de recensement, la cartographie ou les usages des savoirs ethnographiques ou ethnologiques dans l'entreprise de domination coloniale ont déjà été travaillés depuis longtemps. L'étude des rapports de domination dans les États autoritaires ou totalitaires ont longtemps été dominée par trois types d'approches qui insistent soit sur l'exercice du pouvoir à l'état nu, c'est-à-dire la coercition, la terreur ou l'arbitraire pour maintenir une imprévisibilité dans l'ordre social, soit sur un travail idéologique de justification de la domination, ou encore sur l'octroi sélectif de biens et des services pour maintenir une docilité et impliquer une grande partie de la population dans le maintien de l'ordre. C'est ce que Béatrice Ibou a appelé les douceurs insidieuses dans ses travaux sur la Tunisie de Ben Ali. Sur ces différents plans, la RDA est considérée comme étant très performante dans sa capacité à produire l'obéissance. Dans tous les cas, on met en exergue un système de surveillance policière très performante, avec son réseau très ramifié d'informateurs, une production idéologique centrée sur l'antifascisme et une capacité à maîtriser les expressions hétérodoxes dans l'espace public, et une économie relativement performante permettant de distribuer sélectivement des biens. Il existe par ailleurs une sorte de culturalisme souvent implicite, centré sur une culture politique prussienne, avec un sens du devoir et de la discipline qui serait donc propre à cet espace allemand et donc culturellement compatible avec cette forme de domination. Je souhaite ici rediscuter ces lectures en réinterrogeant le lien entre la circularité entre le savoir et le pouvoir, qui pour nous sociologues ou dans les sciences sociales de manière générale semblent souvent aller de soi. On peut, comme souvent, utilement partir des catégories fournies par Max Weber. Donc une première très courte citation, « L'administration bureaucratique est la domination en vertu du savoir ». Cette phrase simple s'inscrit dans la distinction qu'il opère entre Marthe, qui exprime des relations directes et ne nécessite pas de croyance en la légitimité de l'ordre, et la Herrschaft, plus impersonnelle, opérant sur une plus grande échelle grâce à un état-major ou une administration, et qui implique un travail de légitimation pour rendre l'ordre acceptable, allant de soi, sinon désirable. Il s'agit donc d'une entreprise de codification et d'institutionnalisation et un travail d'inculcation visant à rendre la relation asymétrique dans l'ordre des choses. Du point de vue des dominants, il s'agit d'assurer la prévisibilité de l'action et par les investissements de forme de faire l'économie de l'expression de la force. La domination bureaucratique implique ainsi les savoirs à plusieurs titres. Premièrement, comme ressort de légitimation, dans le sens où la détention d'un savoir permet d'asseoir l'autorité ou de justifier une action sur autrui fondée sur la rationalité. Deuxièmement, comme élément permettant aux dominants d'anticiper les réactions, de connaître à l'avance les effets de leur action, d'anticiper sur les logiques sociales pour pouvoir ajuster plus efficacement les cadres de l'interaction dans leur propre intérêt. En d'autres termes, il s'agit de maîtriser, grâce au savoir, les sources de l'incertitude, ce qui suppose une accumulation de savoir, une capacité à connaître les résultats d'une action pour y apporter des correctifs à l'avenir. Troisièmement, les savoirs et leur codification traduisent la complexité et la variété infinie des personnes et des choses et des flux en catégories d'action publique, ou catégories bureaucratiques, nécessaires pour avoir une prise sur le réel et donc orienter les conduites. Cette étroite relation entre les savoirs, supposée entre le savoir et la capacité à exercer une domination, ou même comme fondement du pouvoir, fait partie des croyances communes en sciences sociales, théorisées par les chercheurs les plus consacrés, Max Weber bien sûr, mais aussi Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Alain Desrosières, ou encore James Scott, qui écrit la chose suivante dans « Seeing Like a State ». Je cite « Si nous imaginons un État qui ne dispose d'aucun moyen fiable de localiser sa population, d'évaluer sa richesse, de cartographier son espace et ses ressources, nous imaginons un État dont les interventions dans la société sont nécessairement rudimentaires. Une société qui est relativement opaque à l'État et par conséquent protégée des interventions étatiques les plus fines, qu'elles soient appréciées ou pas. » Fin de citation. Nourri de ces différentes lectures, et voilà, c'est un peu une phrase qui, voilà, chez moi, a résonné de manière très forte, Je me suis interrogé sur cette dimension centrale, le lieu ou le rôle des savoirs dans l'exercice de la domination en RDA. Cette question avait pourtant été peu travaillée dans l'historiographie. De plus, partant d'un autre courant de la sociologie des guichets, où les travaux sur les rapports ordinaires à la politique ou à l'État, on dispose d'une panoplie d'outils permettant de cerner les limites de l'emprise de l'État, les formes de réappropriation intéressées des catégories et savoirs étatiques. Donc, partant de ce cadre très général, pour l'instant, je souhaite illustrer mon propos avec quatre exemples tirés de mes travaux sur la RDA et notamment sur les politiques du logement, pour étudier les différentes configurations et dynamiques où la circularité entre le savoir et l'exercice de domination fonctionne, mais aussi les configurations où cette circularité est interrompue, subvertie, voire inexistante. Bref, c'est question de l'opacité de la société pour les dominants, ce qui peut rester imprévisible ou incompréhensible. Donc, le premier exemple ou illustration est l'usage du recensement de la population et du logement en RDA. Donc, une technique de gouvernement très ancienne qui permet précisément de localiser avec précision, de qualifier, de quantifier à la fois la population et en ce qui me concerne aussi le parc du logement. Donc, je commence par cet exemple parce qu'il pointe un premier problème, c'est le problème de la subjectivité du chercheur. C'est-à-dire que, armé avec tout ce bagage, tout ce qu'on croit savoir sur le rapport entre les savoirs et le gouvernement, on s'attend, on accorde naturellement une importance très grande à ce type de connaissances. Effectivement, entre 1946 et 1981, la RDA a réalisé 4 recensements de sa population, dont 3 synchronisés avec un recensement des logements. Je m'attendais à une exploitation très poussée et fine de ces données de recensement du côté des bureaucraties d'État, leur permettant par exemple de localiser les individus et les groupes, d'évaluer la quantité et la qualité des biens et d'agir en conséquence. Ce savoir aurait pu instrumenter tout un ensemble de politiques et de pratiques du gouvernement. Or, dans les archives, je n'ai pratiquement rien trouvé de tel. Je n'ai pas trouvé de cartes avec des projections ou d'histogrammes sur les concentrations de groupes dans l'espace urbain, ni d'objectivation statistique sur la localisation spatiale des groupes ou les inégalités entre les groupes en termes d'habitat. Ce qui est un peu frustrant lorsqu'on est sociologue qui souhaite étudier justement les effets agrégés des politiques publiques qu'on étudie, notamment en termes de production ou de reproduction des inégalités sociales. Or, en fait, cette question ne se posait tout simplement pas aux acteurs que j'ai étudiés. Bref, j'avais projeté les questionnements de la sociologie urbaine française des années 90 et 2000 sur un contexte où ce type de problème n'était tout simplement pas constitué en enjeu. Du coup, je me suis demandé pourquoi ce pays avait alors consacré beaucoup, un immense effort de mobilisation à 4 reprises pour collecter toutes ces données, pour ne pas s'en servir ensuite. J'ai fait l'hypothèse suivante, sachant qu'il est difficile d'expliquer une impensée. En fait, j'avais trouvé une carte qui date de 1946, qui était une tentative de cartographier, donc sur un plan d'une ville, quartier par quartier, les résultats électoraux. Donc par histogramme, avec les 4 partis qui s'étaient présentés en 1946. C'était une époque où il y avait encore une incertitude sur les rapports de force entre les partis politiques et où le peuplement des quartiers, le peuplement social, avait donc une incidence politique et un enjeu. Or, quelques années après, à partir du moment où les élections ne réservaient plus aucune surprise, où le parti politique, dont par ailleurs son organisation était construite sur la base des entreprises et non pas sur une base territoriale, tenait fermement le pouvoir, la répartition spatiale des groupes sociaux avait concrètement cessé d'être un objet ou un enjeu politique. Pour revenir au résultat du recensement, à quoi servait donc ce savoir? Indéniablement, il y avait tout d'abord quand même un enjeu de légitimation du pouvoir ou du régime par le savoir. Les recensements ont été organisés avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme, de précision, mais aussi à grand renfort de publicité, en expliquant aux citoyens à quoi devait servir cette mobilisation. notamment pour améliorer la planification économique et donc accélérer la reconstruction du pays. Or, en réalité, ces recensements n'ont pas servi à cela, et les rares fois où on voit l'usage de ces données étaient en fait presque toujours cantonnées à gérer des rapports de force internes à la bureaucratie. Par exemple, ces données ont été utilisées pour contrer ou ramener à leur juste proportion les demandes venues des villes ou des territoires infranationales en termes d'investissement de logement. Ces instances ne disposaient pas de données à jour sur leur propre territoire et encore moins sur la comparaison de l'état de leur infrastructure par rapport à d'autres territoires. Et donc, le centre politique avait un jeu facile en mobilisant sélectivement les données du recensement pour délégitimer des demandes non voulues. Bref, sur cette question, le savoir était une ressource extrêmement puissante, mais qui était gardée en réserve, donc dans les armoires blindées à Berlin, et utilisée uniquement dans les jeux internes pour mieux asseoir une obéissance à l'intérieur d'une bureaucratie, mais sans rapport ou sans effet, en fait, sur les rapports de domination entre administration et la population. Le deuxième exemple que je souhaite évoquer un peu plus rapidement concerne la spécialisation des acteurs et les effets de cette spécialisation des acteurs bureaucratiques sur la définition des problèmes publics. Donc, c'est un exemple qui concerne cette fois-ci les acteurs étatiques et qui est dans la droite lignée en fait, des travaux de Martin sur les statisticiens en Union soviétique. Ici encore, l'historiographie a longtemps centré le regard donc, sur les formes de domination à l'intérieur de l'appareil bureaucratique, sur les capitaux politiques et militants d'un côté, et sur la mise en place d'une politique de cadre et de gestion par des biographies de l'autre. Dans ce modèle d'emprise en fait, par des logiques partisanes sur la logique de l'État, on pense en général que ça contribue à une forme de déspécialisation, de déprofessionnalisation de la bureaucratie. Or, dans certains domaines, comme dans les politiques du logement que j'ai étudiées, les enjeux, l'énonciation et la nature du problème public et les instruments de sa résolution ont été en grande partie déterminés par des détenteurs d'un savoir-faire spécifique. C'est à eux, architectes dans un premier temps, puis économistes à partir des années 60, que les membres du bureau politique vont déléguer une grande autonomie dans la détermination et la définition de cette politique sectorielle. Donc, cette politique publique dépend en grande partie des visions du monde et des savoir-faire professionnels, des savoirs et des instruments de connaissance portés par ces experts. Très schématiquement, qu'est-ce que ça change d'avoir des architectes au commandement du ministère plutôt que des économistes ? Les architectes vont s'intéresser aux formes architecturales, à l'urbanisme et aux techniques de construction. Ils ne s'intéressent pas à la quantité de logements construits, ils ne s'intéressent pas particulièrement à la mesure ou l'optimisation des coûts, ni au parc ou à l'infrastructure ancienne. La jeune génération d'économistes qui va remplacer les architectes grâce, en revendiquant une scientificité supérieure, un savoir-faire supérieur, vont mettre en avant d'autres qualités, d'autres problèmes. Ils vont tout d'abord s'intéresser, c'est naturel, au coût et à leur optimisation. Ils vont s'intéresser aussi au parc ancien dans leur modèle économétrique et vont s'intéresser enfin à la quantité des logements construits et leur localisation comme élément de planification totalisante de la main-d'œuvre. Et cela va évidemment avoir des effets importants sur la définition de la question du logement et va jouer un rôle dans le tournant qui va s'opérer au début des années 70. Troisième illustration, ce sont les rapports aux guichets. Ici, je me focalise sur les pratiques d'attribution de logement. Donc, deux ou trois petits éléments contextuels pour comprendre cette relation de type administratif. Il s'agit en fait de l'organisation de la rencontre entre l'offre et la demande de logement entièrement contrôlé par l'État. Les carrières résidentielles impliquaient ainsi une négociation sur les identités des personnes et les qualités des biens avec les agents municipaux. En d'autres termes, les désirs, les besoins, les motivations investies dans l'habitat devaient passer par une décision administrative pour se réaliser. Les agents municipaux, quant à eux, devaient, de leur côté, fixer une liste nominative d'attribution en suivant les instructions, les circulaires ministérielles, les lois et communiqués du bureau politique qui définissaient un ensemble de groupes prioritaires dans l'attribution de logements. Or, il n'existait aucune instance centrale de coordination ou de contrôle de cette activité. Donc, les agents municipaux étaient confrontés en pratique à la multiplication des directives tous azimuts concernant un nombre toujours plus élargi des catégories prioritaires, surtout en faveur des clientèles de certains ministères ou du parti, souhaitant loger leur main-d'œuvre indispensable à la réalisation de leurs projets. La relation au guichet avait donc un certain nombre de caractéristiques qui en découlaient. Une marge d'appréciation relativement grande dans la définition des identités ouvrant accès à un accès accéléré ou privilégié au logement, avec une définition très plastique des catégories sociales rendue possible par cette multiplication des directives et leur flou définitionnel. Deuxième élément, c'est une tension structurelle entre les demandeurs venus de l'extérieur d'une commune, disposant d'un appui, d'une entreprise ou d'un ministère, et les autochtones qui souhaitaient être relogés. Les agents municipaux, du fait de leur propre insertion sociale dans la commune, avaient en fait tendance à plutôt favoriser les demandes dans leur propre cercle de sociabilité, ce qui nécessitait de freiner, là où c'était possible, l'arrivée des personnes avec un appui politique. Leur action n'était pas uniquement dictée par une obéissance aveugle à la règle, de toute façon la règle était floue et contradictoire, mais aussi par tout un ensemble d'autres considérations relevant de leur réseau et relations de sociabilité. Le parti et la hiérarchie étatique avaient en outre peu d'emprise structurelle sur ces employés municipaux, pour deux raisons essentielles. Premièrement, ils étaient très mal payés et soumis à des pressions sociales fortes et contradictoires. Il y avait donc un très fort turnover. Donc, pour stabiliser le personnel, il fallait laisser une certaine latitude, certaine marge de liberté. Deuxièmement, les catégories administratives étaient tellement floues qu'en rendant compte de leur action, les agents pouvaient retraduire ex post leur activité peu conforme au règlement, en le rendant conforme aux objectifs politiques. En même temps, on voit qu'il est difficile de qualifier ainsi cette relation entre l'agent municipal, peu doté en ressources, et un administré comme une relation pure de commandement et d'obéissance. Très souvent, la relation a été inversée, à la fois socialement, mais aussi politiquement, lorsque les demandeurs pouvaient passer outre et mobiliser un soutien politique fort. Les mobilisations de soutien politique n'étaient pas le monopole des citoyens les plus dotés. Les responsables locaux du parti des élus ont été très souvent sollicités et sont souvent intervenus pour accélérer donc un dossier. Au cours du temps, on peut ainsi observer un affaiblissement à la fois de la solidité des catégories d'action publique par la quasi-institutionnalisation d'un passe-droit, mais aussi de l'autorité des agents au guichet qui étaient censés appliquer ces catégories. De ce fait, on peut parler d'un affaiblissement progressif de la capacité de l'État à structurer les anticipations et à commander l'obéissance, au moins sur ces questions. Je souhaite évoquer une dernière question avant d'en conclure. Que savaient les membres du bureau politique de l'opinion et quels étaient les instruments de connaissance de leur à leur disposition pour comprendre le rapport des citoyens à leur État ? Bref, je reviens en quelque sorte à la question du départ posée par James Scott sur l'opacité, en fait, d'une société. La plupart des observateurs ont conclu que l'effondrement du régime en 1989 était le résultat d'une érosion lente mais inéluctable des croyances en la légitimité du régime, qui n'avait pas été perçue par les dirigeants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'absence d'un retour par les urnes ou par une presse complètement cadenassée semble aller de soi. Donc c'est une manière de couper, se couper en fait d'une manière de mesurer, d'une certaine manière, l'état de l'opinion avec beaucoup de guillemets. On rajoute à cela souvent un aveuglement idéologique de la part des dirigeants, une sorte de syndrome du village Potemkin, des dirigeants coupés de la vie ordinaire, ou encore une observation faite par plusieurs historiens qui ont travaillé dans les archives, que les rapports administratifs routiniers, comme les biographies d'institutions d'ailleurs, qui remontaient à Berlin, prenait des formes de plus en plus conformes avec le passage du temps, c'est-à-dire qu'il y avait un apprentissage de la part des bureaucrates, mais de tout un chacun, des formes attendues par le pouvoir, pour éviter donc des ennuis ou un contrôle, mais finalement aseptiser les informations qui remontaient à Berlin. Restaient deux sources importantes et principales, pour ne pas dire principales, évidemment l'activité de surveillance de la Stasi et la pratique très répandue de l'écriture des Eingaben, sorte de pétition individuelle. Pour ceux qui ont vu le film Goodbye Lenin, donc il y a un petit aperçu de cette pratique. C'est-à-dire une pratique encouragée par le pouvoir de s'adresser au pouvoir pour exercer une critique d'une situation ou d'engager une relation avec les détenteurs du pouvoir. Ainsi, la direction du parti, mais aussi des responsables politiques ou étatiques à tous les niveaux, recevaient des centaines de milliers de ces lettres individuelles, une sorte de pétition individuelle. Or, ces deux sources produisaient évidemment un volume presque infini de savoir sur les individus, étaient en fin de compte très peu utiles ou utilisables pour cerner la légitimité du régime. Tout d'abord, les citoyens ne se posent pas véritablement la question de la légitimité d'un régime tous les jours, un régime qui était par ailleurs solidement ancré dans les réalités, et on ne se posait pas la question de son existence, même aussi tard que octobre ou novembre 89. D'autre part, ces sources avaient un caractère profondément individuel et dispersé, et donc il était très difficile de les agréger en catégories pertinentes permettant d'identifier les sources d'insatisfaction ou les groupes sociaux dont l'obéissance ou la docilité pouvaient poser problème. Ainsi, si on prend les Eingaben, on aurait pu imaginer des tentatives de construction statistique, et cela avait effectivement été tenté à plusieurs reprises. Or, la nature même de ces prises de parole, donc il ne s'agit pas d'un formulaire qu'on peut saisir, donc ce sont des lettres, donc libres, où les scripteurs étaient libres de leur propre présentation de soi, donc il est très souvent très difficile de cerner qui sont ces scripteurs socialement, ni même le problème dont il était question, qui était là aussi laissé donc porté par les citoyens, était très difficile à quantifier. Et donc, face à ces tentatives de quantification, de mise en tableau, soit des territoires qui posaient problème, des groupes sociaux, des types de problèmes publics, les dirigeants du bureau politique considéraient qu'il ne s'agissait pas d'une mesure fiable. Donc, le bras droit d'Erich Honecker a décrété, au début des années 80, lorsqu'on lui a présenté ces tableaux, qu'il s'agissait là d'une agrégation hasardeuse de broutilles qui n'avait aucun sens. Plusieurs historiens ont essayé d'utiliser cette source comme instrument pour mesurer l'opinion publique. Avec un peu de naïveté, cette source a ainsi été lue comme une mesure de l'opinion, des sources de frustration, une vision de la vie quotidienne et, in fine, de la légitimité défaillante du régime. Or, c'est, me semble-t-il, profondément méconnaître l'économie de l'échange, de cet échange de savoir, initié par l'administré et le sens tactique qui est déployé. Ainsi, pour ne citer une figure récurrente, donc un des répertoires les plus employés dans les Eingaben prend la forme suivante. Le scripteur commence en se présentant comme un citoyen modèle, engagé à la fois sur un plan politique et dans son travail. Il expose ensuite son problème, donc je me suis intéressé au logement, donc le mauvais traitement dont il aurait pu subir, sa longue attente d'un logement, et le scripteur montre en quoi cette situation mine sa productivité au travail et ébranle finalement sa foi socialiste. Il met ainsi le destinataire au défi, donc souvent un dirigeant politique. Le destinataire doit intervenir pour restaurer une croyance ébranlée, perdue. C'est une tactique qui marche plutôt bien, mais on ne peut rien déduire sur la réalité de la croyance politique avant ou après cet échange. Tout au plus cela nous permet de comprendre les usages de l'État, l'appropriation des catégories supposées efficientes dans l'interaction et la structure des transactions entre dominants et dominés. Donc pour conclure, je suis dans les temps. D'accord. Étudier donc le rôle des savoirs dans les relations de domination est à la fois indispensable et doit inviter à une certaine prudence. Comme nous sommes nous-mêmes producteurs de savoirs spécialisés, on peut être facilement victime d'un certain biais intellectualiste qui peut nous conduire à surévaluer l'importance des savoirs que ce soit nos savoirs ou les savoirs de type bureaucratique. Donc mes travaux plus récents que j'ai menés avec Martine et Étienne Pénissard dans le cadre d'un ANR sur la statistique de l'Union européenne nous a également progressivement amené à cette prudence. La simple existence de catégories statistiques ou le déploiement des dispositifs de benchmarking par exemple ne suffit pas en soi pour produire des effets au sein de la bureaucratie ou même des effets de domination à distance par une inculcation de nouvelles catégories de visions et de divisions du monde social. Ce n'est pas parce qu'un savoir est produit, existe et est même institutionnalisé qu'il sert ou qu'il est nécessairement utile dans une entreprise de domination. Donc il y a certaines conditions, certaines circulations et certaines conditions à la fois historiques et sociales qui sont nécessaires à la production ou à l'efficacité de cette circularité entre le savoir et le pouvoir, à commencer par leur diffusion par une multitude de vecteurs et leur réappropriation intéressée par ceux qui seraient concernés, y compris pour éventuellement subvertir ces catégories. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça a stimulé des réflexions pour ceux qui ne seraient pas spécialistes de ces périodes historiques, de ce type de régime. Merci. Yeah.
Bien, merci G. Je propose qu'on passe tout de suite la parole à Bambensa.
Je vais m'approcher du micro.
Ce qui va nous amener ailleurs.
Oui, pas si loin, pas si loin. Voilà. Donc, bonsoir. Merci beaucoup à Nicolas Vald et aux organisateurs de ce congrès de sociologues d'avoir invité un anthropologue. Et je suis très, très content d'être ici et d'y retrouver aussi nombreuses personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, notamment dans le DEA de sciences sociales que j'ai animé pendant longtemps avec des sociologues, des historiens, des anthropologues, dans le cadre de l'EHESS, ENS à Ulm et à Jourdan. Donc merci beaucoup, je suis très content d'être là et en même temps, je voudrais répondre un petit peu à la thématique du colloque sur la domination en vous épargnant un exposé fouillé sur la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, qui, pour le moins intéressante qu'elle soit, et en pleine mutation, comme depuis que je la connais de toute façon, ne nous permettrait pas d'entrer plus précisément dans la thématique élargie qui est celle de la domination. Donc j'ai repris mon matériel, les choses que je suis en train de rédiger, mais en surplomb et dans une perspective un peu plus, sinon comparative, en tous les cas, essayer de comprendre ce que la domination coloniale, telle que j'ai pu en faire l'expérience à travers l'expérience ethnographique, d'une manière certaine, d'une certaine manière, et quoi qu'en disent souvent les ethnologues, l'expérience ethnographique est toujours et d'abord une expérience coloniale. C'est-à-dire, sauf exception, mais vous vous trouvez dans des situations où les sous-ensembles que vous souhaitez étudier ou qu'on vous demande d'étudier sont pris dans des logiques d'états coloniaux ou, comme on dit maintenant, post-coloniaux. Donc, la question que vous voulez poser, la suivante, l'État bourgeois, depuis la Révolution française, par rapport à l'État aristocratique qui précède la Révolution sous l'Ancien Régime, cet État bourgeois fabrique de la domination sociale, politique, idéologique. Et dans ce travail de fabrication, il va être particulièrement intense parce que après l'État aristocratique, la royauté, où les ordres hiérarchiques étaient en quelque sorte si fortement intériorisés qu'ils pouvaient apparaître aux différents acteurs, y compris aux dominés, comme naturels, la Révolution française va en quelque sorte tirer une balle dans le pied de l'État et de ses formes de domination en mettant en avant des valeurs, celles de l'individualisme universaliste, la liberté, l'égalité. La fraternité, comme vous savez, a été rajoutée au dernier moment et en tous les cas, la liberté et l'égalité comme principes abstraits, des idéaux qui sont en rupture, en fait, avec les réalités sociologiques. Bien placé, sociologue et anthropologue, pour pour le savoir. Alors au XIXe siècle, donc dans la foulée de cette révolution, au XIXe siècle, les colonisations françaises, mais aussi britanniques, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, au Maghreb, etc., les colonisations vont exporter cet état, cette forme étatique bourgeoise, c'est-à-dire dominée par une classe bourgeoise, vont l'exporter outre-mer, le mot outre-mer lui-même étant tout à fait spécial, et imposer par les armes cette nouvelle forme à d'autres populations qui n'avaient rien demandé de cet ordre-là. Alors cette expansion, cette espèce d'excroissance, ce déplacement finalement de la structure étatique bourgeoise naissante dans la foulée de la Révolution, cette excroissance va mettre à nu finalement ces mécanismes. C'est-à-dire l'idée qui a souvent été développée, c'est que la colonisation est en quelque sorte une caricature des formes de domination qui sont à l'œuvre dans les métropoles colonisatrices. Hein. Par la colonisation, l'État moderne, si vous voulez, l'État contemporain, s'explicite, se montre. Et alors, en quoi ? Bon, très simplement, hein, c'est évident, toute l'organisation de cet État est fondée sur la production de subalternes. Au service des classes dominantes, il faut produire des subalternes par toutes sortes de moyens, que ce soit l'école, la religion, la littérature, le droit, etc., hein, produire des catégories, étiqueter, etc. Dans le cas de la colonisation, c'est beaucoup plus manifeste, puisque, si vous voulez, ce n'est pas un processus interne de transformation d'une société, qui les classes dominantes se transforment et il y a des glissements de dominé à dominant, des trajectoires, des passages, etc. Dans le cas de la colonisation, c'est un arraisonnement massif d'une population, hein, d'un peuple entier, de pays entiers, souvent plus grands que les pays des colonisateurs, pas toujours. Et là, la première chose que va faire la colonisation outre-mer, c'est de produire de l'indigène. Il faut produire de l'indigène, il faut produire de l'altérité, il faut produire une coupure, puisqu'elle n'est pas donnée d'emblée dans la distribution des métiers, dans les métiers manuels, les métiers intellectuels, dans les métiers politiques et les métiers artistiques, etc. Il faut fabriquer de l'indigène, et à cet égard, l'ethnologie, l'anthropologie, qui est née dans la foulée de ces développements historiques, l'ethnologie a joué un rôle important pour produire, fabriquer de l'indigène, alors de l'ethnie, le dernier avatar, maintenant c'est l'autochtonie, mais enfin c'est toujours pareil, on essaie de produire de la différence, au moment même, d'ailleurs, où nos propres États fabriquaient de l'étranger. Fabriquaient de l'étranger, délimitaient ses frontières, et là, les travaux que ce soit les travaux de Bazin sur « À chacun son bambara » où il montre justement tout l'étiquetage colonial, comment il va travailler à produire de l'indigène, ou ceux de Noiriel qui montrent très bien comment la structuration de l'État contemporain se fait à travers la carte d'identité, la production progressive de l'étranger, c'est-à-dire de coupures, de limites, de barrières internes entre justement les dominants et les dominés. Alors, dans le cas qui nous intéresse, si vous voulez, bon, cet arraisonnement colonial, il est évidemment économique. Il faut que les indigènes changent de pratique, on leur impose de nouvelles techniques. De ce point de vue-là, les politiques de développement ont toujours quelque chose à voir avec la domination coloniale. C'est aussi, évidemment, une imposition idéologique. Il faut changer de valeur, il faut changer de religion, passer des ancêtres au Dieu unique, etc. Changer de conception du monde, qui sont jugés incompatibles avec le monde moderne, contemporain. Évidemment, l'anthropologie va là encore jouer un rôle dans la construction de ce grand partage. C'est, Elle va fabriquer de la pensée sauvage, de la mythologie. Et le livre de Marcel Détienne, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait « L'invention de la mythologie », mettait bien en perspective historique cette fabrication de cette catégorie mythologique. La mythologie, c'est toujours les autres. Alors, les autres aussi, notamment dans le Pacifique, ce sont des gens qui n'ont pas de commandant, de gouverneur, d'évêque ou de prix Nobel, ou etc. Ils ont des chefs. Hein, ce qui caractérise le monde océanien et le monde dominé des indigènes, c'est qu'ils ont des chefs, ce mot chef étant mis absolument à toutes les sauces, et il faut que ces chefs soient soumis à l'ordre colonial. Donc il s'agira de vider les anciens pouvoirs de leur efficacité. Alors on passe d'abord, passage obligé par la guerre de conquête, donc il n'y a pas de colonisation sans lutte armée, hein, sans imposition militaire, dans un premier temps, puis imposition religieuse, et puis au bout du bout, quand tout est calme, l'anthropologue arrive et là peut justement recueillir la mémoire, refabriquer de l'ethnie, etc. Donc ce travail politique, hein, et cette fabrication de l'indigène, de l'autre, fabrication d'une distinction globale qui va être, avec la notion d'altérité, ambivalente, évidemment, parce que tantôt c'est discriminatoire, ils sont vraiment, comme disait Maurice Lénard, pour les Kanaks, c'est les descendants de l'homme de Néandertal, c'est le chaînon manquant, etc. Et en même temps, donc c'est les gens qu'on ne veut plus être, qui ont peut-être été nous-mêmes et qu'on ne veut pas voir. Et puis, ou alors, c'est un autre magnifié, différent, au-dessus, porteur d'un exotisme infini. Alors, ce travail du colonial pour produire de l'indigène va induire des réactions. Et c'est là-dessus le lien se fera avec Jay Horowitz sur la question des savoirs, justement. Hein, va induire des réactions, je viendrai tout à l'heure. Donc les situations coloniales ont tout en commun, une relation évidente, manifeste et explicite à la domination, à la hiérarchie des ordres sous l'Ancien Régime, puis des classes, 19e siècle, 20e siècle, correspond au régime colonial, celle qui classe les colonisateurs et les indigènes. Bon. Alors, est-ce qu'on peut établir une analogie, une homologie parfaite entre les deux régimes, le régime d'État dans l'État à classe dans les métropoles et le régime colonial? Est-ce que les colonisateurs sont l'équivalent des patrons, les colonisés des ouvriers? Je pense que ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce que, pour une raison importante, c'est que la colonisation, telle que, en tous les cas, je l'ai connue dans le Pacifique, était une chose relativement récente. C'est les derniers pays colonisés, la découverte du Pacifique, c'est la fin du XVIIIe siècle, et les colonisations pour la Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne la colonisation française, c'est la prise de possession officielle, c'est 1853, donc sous Napoléon III. Donc, les colonisateurs sont contraints, en quelque sorte, de mettre en place un appareil permanent de justification. Ils sont en quelque sorte dominés par leur domination. Il faut en permanence qu'ils fabriquent de l'indigène, qu'ils ressassent l'histoire de la conquête, qu'ils prouvent leur place, qu'ils l'établissent, d'autant qu'ils ont quand même comme frein justement cette déclaration universelle des droits de l'homme, la Révolution française. Et il faut savoir que, en tous les cas dans l'espace français, les colonisations se sont toujours passées un peu dans la douleur. Il y a toujours eu des espaces critiques à l'intérieur du pays colonisateur pour dire attention, il faudrait adapter, ils ne sont pas si mauvais, on pourrait faire autrement, etc. Donc la domination naît d'une séparation, et elle produit de la séparation, hein, et elle naît d'une séparation parce que les nouveaux habitants, les nouveaux conquérants, ils sont séparés de ceux qui veulent dominer, et il faut essayer de rétablir de la continuité. D'ailleurs, un des maîtres mots jusqu'à aujourd'hui de la colonisation et même des territoires d'outre-mer, c'est la continuité de l'État. Il faut rétablir de la continuité, combler en permanence cet écart qui ailleurs, peut-être, dans nos États qui ne sont pas coloniaux, ces écarts, c'est peut-être comblé par le discours idéologique sur l'école, le discours idéologique sur l'art, c'est-à-dire penser que les ouvriers peuvent devenir des bourgeois sous certaines conditions, elle a pensé que les indigènes pourraient devenir des Français, mais sous certaines conditions qu'on leur impose, etc. Et c'est ce travail-là qui me paraît important. Alors, en Océanie insulaire, j'ai travaillé, en Calédonie en particulier, l'État français était confronté à une situation aussi très particulière qui mérite d'être soulignée, c'est la question de la violence. La question de la violence, et notamment de la violence légitime. L'État tout court et l'État colonial, pour le moins, sont détenteurs de la violence légitime. Ils vont imposer la pacification, ils vont imposer la fin des guerres qui pouvaient exister dans les univers qu'ils viennent dominer, et ils vont essayer de contrôler la violence, d'en être les seuls porteurs. Dans les sociétés qui ont été colonisées, celles du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie en particulier, il n'y avait pas de monopole de la violence légitime. On était dans des sociétés dites segmentaires où chaque unité et chaque individu même portait ses armes, devait se défendre, devait se confronter à d'autres unités. Je ne rentre pas dans le détail de la parenté, de la fabrication de ces unités. Toujours est-il qu'on était dans un univers segmentaire où chacun s'auto-nommait, par exemple, se donnait son nom, il n'y avait pas un État supérieur qui vous donnait votre nom, chacun s'auto-racontait dans des narrations dispersées, elles n'étaient pas unifiées dans un livre ou dans un discours national, chacun devait en permanence construire sa position et, dans ces conditions, produire de l'indigène. Pour l'État, il s'agissait de reclasser ces unités, de les mettre sous le boisseau, de leur redonner un sens qui soit un sens hiérarchique sous la tutelle de l'État. Ça a été la mise, du point de vue de l'espace, l'enfermement dans des réserves. Du point de vue de la parenté, le passage des clans aux familles, on disait, quand les gens se présentaient, 200 personnes dans un clan, on disait non, on veut une famille. Voilà. Quand le recensement et l'état civil a été très tardivement fait dans les années 1950, on demandait aux gens, non, il faut faire comme chez nous, il faut des familles, donc un chef de famille, alors voilà, question du genre, le père, la mère, les enfants, mais pas 200 personnes qui portent le même nom et qui après se segmentent les unes par rapport aux autres en fonction de références toponymiques, totémiques, etc., dont l'État ne voulait pas entendre parler. Et puis, il faut aussi produire une nouvelle hiérarchie. Et c'est comme ça que l'État français a inventé ce qu'ils ont appelé les grandes chefferies, puis des petites chefferies, c'est-à-dire il y a trop de pouvoir éclaté. On ne peut pas négocier avec ces gens-là, il faut soutenir un groupe contre les autres. On prenait un petit groupe politique qui existait, on le soutenait, on l'armait, on le constituait comme agent de la colonisation. Le grand chef devait prélever l'impôt de capitation, un impôt, il devait prélever du travail, exiger des canaques, donc en l'occurrence, ils allaient travailler chez les colons, il devait organiser la force de travail pour la colonie. Et d'ailleurs, dans les archives, c'est très net, cet indigène travaille bien pour la colonie. Et donc, éventuellement, on leur donnait une médaille, etc. Et on les rétribuait un petit peu, ces grands chefs, et quand la colonie a eu besoin de plus de travailleurs, elle est allée chercher des indigènes ailleurs, aux Indes néerlandaises, à Tahiti, dans l'océan Indien, etc., pour construire une force de travail, parce que la colonie, comme l'État bourgeois capitaliste, est fondée sur le contrôle de la force de travail. Et dans les colonies, en plus, pour le colonisateur, tout est à faire. Il faut faire des ponts, il faut faire des routes, il faut faire des hôpitaux, dont on se glorifie beaucoup après. Mais ce sont les indigènes qui les fabriquent, sous la tutelle, sous l'autorité de l'État colonial. Donc, la colonisation passe par des relais, la domination passe par des relais qui à la fois intègrent quelques figures indigènes dans le dispositif colonial et en même temps le tiennent à distance, parce que l'indigène, il doit quitter Nouméa, enfin il devait sortir de Nouméa jusqu'en 1946, à la tombée de la nuit, on tirait un coup de canon pour qu'il sorte. Il faut construire de la distance tout en contrôlant, séparer, tout en intégrant dans le dispositif colonial. Alors évidemment, ce dispositif de domination, il a un coût militaire, un coût économique, il faut comment dire, faire produire aux gens plus d'autres choses que ce qu'ils produisaient avant, s'attaquer aux économies de subsistance pour les faire entrer dans l'économie industrielle, dans l'économie commerciale, dans les grandes plantations, les structures d'élevage, etc. Un coût idéologique, parler du progrès, de la conquête, etc. Mais ça aussi un poids idéologique très fort qui va troubler le jeu. Hein. Parce que le colonisateur lui-même, qui souvent n'est pas un dominant dans son propre univers d'origine. Les gens qui sont partis en Nouvelle-Calédonie, ce sont des gens qui ont été condamnés, qui sont allés au bagne en Nouvelle-Calédonie, qui ensuite ont été libérés, mais ce sont aussi des petits agriculteurs, des ouvriers des banlieues de Saint-Étienne, Limoges, d'Alsace, de Bretagne, etc., qui avaient déjà migré à l'intérieur de l'espace français, c'est ce qu'a bien montré Isabelle Merle, et qui ensuite ont atterri à Marseille, et de Marseille, ou de Nantes, ou de Bordeaux encore plus, parce que Bordeaux a joué un grand rôle dans la colonisation en Nouvelle-Calédonie, sont partis là-bas. Et là-bas, on leur a donné des terres, et évidemment, il fallait qu'ils se reconstruisent une position de dominant, alors qu'ils avaient été dominés dans leur propre univers. Donc c'est un travail énorme qu'il leur a fallu fournir, et ils le fournissent souvent plus ou moins... Enfin, à la fois violemment et en étant pas tout à fait sûr de leur coup, hein, et pas très bien conforté dans leur attitude. Et du côté des colonisés, et on va y venir, il s'agissait, comme dit Glissant, quoi, à propos de l'esclavage, d'endurer la situation, hein, et d'essayer à la fois d'en tirer profit, c'est-à-dire de trouver des espaces dans lesquels se glisser pour, malgré tout, trouver un peu de boulot, un peu plus d'alcool, éventuellement des armes, éventuellement quelques avantages, etc. Donc la société va travailler à une sorte de non pas d'insertion, mais de grappillage de ce qui pouvait être grappillé de l'univers colonial, et c'est l'apport des études de je ne sais pas, Dan Stoller, Frédéric Cooper, etc., d'avoir montré tous ces espaces interstitiels du monde colonial, qui n'est pas aussi frontal qu'on veut le dire, mais le frontal revient au galop dès qu'il y a le moindre caillou qui vole, dès qu'il y a la moindre guerre indigène, dès qu'il y a la moindre révolte, à ce moment-là, les blocs se reconstituent. Et dans ce travail de reconstruction de soi ou de maintien de soi-même au cœur même de l'univers colonial, les colonisés vont, et c'est le travail que je mène actuellement, et ça rejoint à mon avis cette question sur les savoirs, enfin, ils vont essayer de ne rien oublier. La mémoire va prendre une forme immense, peut-être pour ça que les ethnologues s'intéressent beaucoup à la mythologie, parce qu'effectivement, quand il ne reste plus rien, ou quand les pratiques sont interdites, vous ne pouvez plus faire vos rituels, vous ne pouvez plus vous déplacer, il faut des autorisations de la gendarmerie pour sortir de la réserve, etc., il vous reste la mémoire, il vous reste à ne rien oublier, à essayer de vous construire un passé, hein, à saisir ce qui a pu être glorieux dans votre passé, et surtout à essayer de maintenir une continuité. Hein. Et c'est ça qui est frappant. Alors là, il y aurait un travail certainement comparatif à faire avec Rancière, tout ce qui est autour de la mémoire ouvrière, et essayer de maintenir une continuité pour ne pas disparaître en tant qu'univers spécifique et qu'univers digne, si vous voulez, hein, puisque aussi bien la situation coloniale que la domination capitaliste jugent les dominés indignes, quelque part. Ils ne savent pas écrire, tout est oral, etc. Mais par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, le grand mythe qui a été entretenu jusqu'à maintenant, pratiquement, c'est de dire que c'est un univers purement oral. Erreur. Tous les gens du Pacifique, sous l'influence des missionnaires, très tôt, dès 1820 à Hawaï, et dès 1860 en Nouvelle-Calédonie, à peine 10 ans après l'installation de la France, la prise de possession de la France de la Nouvelle-Calédonie par la France, eh bien, les gens se mettent à écrire. Ils écrivent dans leur langue, ils écrivent des cahiers, ils écrivent des espèces de poésie, des épopées, ils écrivent la mémoire de, par exemple, quand ils sont mis dans des réserves, ils vont essayer de noter comment la réserve se construit, ils vont essayer de se redonner des ordres politiques, des formes politiques à travers des récits. Donc il y a une production narrative qui est très très importante. Et évidemment, la domination coloniale, elle, va dénigrer ces discours, soit absolument pas les voir. Or, depuis que les archives sont à Nouméa et qu'il y a beaucoup de documents qui sont arrivés, on est stupéfait de voir la quantité d'écrits indigènes, si vous voulez, hein, d'écrits mélanésiens, d'écrits océaniens, la plupart dans leur propre langue, aussi quelquefois en français. Et la domination coloniale, Foucault insiste beaucoup là-dessus, c'est une domination aussi du discours. Il s'agit de capter le discours de la conquête, le discours du progrès. On vous a sorti de la nuit, vous étiez des sauvages, vous étiez des pauvres gens, vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez en prophophage. Enfin, il y a tout un ensemble de critères négatifs qui sont attribués aux populations. Et, petite incidence, à partir du moment même où, alors de façon récente, en 1986, a été créée une université à Nouméa, hein, ce sera un beau sujet d'étude pour sociologues, à mon avis, de cette université, ben là, pareil, il fallait, par exemple, pendant des décennies, il n'était pas question d'enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est quand même assez extraordinaire. On enseignait la grande histoire, mais pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'évidemment, comment enseigner l'histoire de la conquête, c'est assez embêtant, si vous voulez, ça pose des problèmes moraux infinis, et le problème des langues, que des politiques linguistiques que Marie Salin, ici présente, a bien étudié dans le dernier ouvrage qu'elle a publié, montre bien cette articulation entre politique et politique linguistique, la question des langues, parce que la langue, ça résiste. Si vous voulez, si vous parlez une autre langue, c'est une autre langue. Alors on dit non, c'est un dialecte, ils ne parlent pas vraiment leur langue, ils parlent plus. En fait, tout ça, c'est mélangé de français. Essayez de comprendre ces langues, vous n'y comprenez rien, elles sont, voilà, c'est des langues. Bon. Donc, la bataille sur l'école, sur les langues, évidemment sur le récit, la bataille sur le livre d'histoire, il y a eu des améliorations depuis les événements en Calédonie, fin des années 80, des améliorations des livres d'histoire, mais des batailles insensées pour savoir si c'est une insurrection, c'est une révolution, c'est une révolte, pour caractériser les conflits, fabriquer des héros. Est-ce que Ataï est un grand héros? C'est un des héros de la grande insurrection de 1878 en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, dans le dispositif colonial, vous avez des interstices, des points aveugles, et l'effet de marginalisation, vous marginalisez les gens, mais c'est aussi un effet de méconnaissance. Et d'ailleurs, ça produit un silence. Si vous avez l'expérience de la relation coloniale, c'est comme ça en Nouvelle-Calédonie, les Européens, les Blancs, souvent disent « les Kanaks ne parlent pas ». C'est-à-dire qu'ils ne leur parlent pas. Vous êtes dans la tribu, avec eux, ils parlent, évidemment. Mais, si vous voulez, cette idée que l'enfant Kanak est silencieux. Essayez de travailler avec des enfants Kanak autour de vous, vous allez voir, c'est comme chez vous. Enfin, c'est pas... ce silence dans la relation coloniale est souvent le signe même de la domination. Hein, parce que on n'a rien à se dire, et je me souviens au début, des gens âgés, ou leurs enfants disaient, ben voilà, lui on le connaît, tu pourrais l'inviter, etc. Une femme avait dit, je ne vous ai pas invité, parce que qu'est-ce que je pourrais dire à un blanc, hein? C'est-à-dire, voilà, il y a une espèce d'espace, une poche, si vous voulez, non investi par la colonie, les réserves, les langues, les pratiques invisibles qui ne sont pas vues, et c'est là que la résistance se construit, c'est là qu'elle se cache, et c'est dans ces formulations narratif, il faut entrer pour essayer de comprendre comment une sorte de contre-récit de l'histoire va être élaboré et ensuite repris en charge par les mouvements nationalistes. Parce que évidemment, cette longue nuit, je ne sais pas combien de temps il y a. Oui, ça va être fini, c'est parfait. Cette longue nuit, c'était caractérisé par les Kanaks, certains avaient caractérisé cette longue période du code de l'indigénat où les Canadiens ne pouvaient pas sortir de leur réserve, n'avaient pas de droit, etc., de 1887 à 1946. Ensuite, ils vont accéder à la citoyenneté française, ils vont former des partis politiques, et donc, ils vont ressortir tous leurs cahiers, toutes leurs histoires, etc. Et ça va devenir... Ces gens seront... c'est des gens de notre génération, hein, qui sont nés juste avant la guerre ou après-guerre, et qui vont être les informateurs des ethnologues, en espérant que les ethnologues fassent connaître justement ces savoirs. Donc, je terminerai là-dessus. Si vous voulez, la domination coloniale est à la fois une espèce de conquête permanente, mais elle a des trous dans son travail, et c'est dans ces trous que vont s'intercaler des savoirs locaux, des savoirs indigènes, des savoirs vernaculaires, qui ensuite serviront de tremplin à la construction des idéologies nationalistes, qu'Anne-Marie Thiès a très bien étudiées par ailleurs, si vous voulez, ou si vous voulez, vont puiser. Alors, le problème, je reviens là-dessus, le problème de l'alternative à la domination coloniale, ce n'est pas l'utopie ethnologique. Là, on entendait parler d'utopie, hein, c'est la possibilité ou la tentative ou l'espoir de construire un État sur le modèle de l'État qui vous a colonisé. Et c'est là que les nouvelles difficultés commencent, c'est-à-dire, est-ce que l'État décolonisé, en supposant que les Kanaks ou que la Nouvelle-Calédonie deviennent indépendantes, sera meilleur ou pire que l'État colonisateur. Mais là, on voit se mettre en place des processus de formation de l'État extrêmement intéressant, mais qui renoue exactement avec les processus de formation de l'État qu'on a connus en Occident, hein, c'est-à-dire construction de narration, émergence d'écrivains, prix littéraire, parce que je crois que tous les travaux sur la littérature qui sont très avancés, que les sociologues ont beaucoup remué, si vous voulez, jouent un grand rôle, évidemment, dans la construction de l'État, hein, de l'État français en particulier, c'est vrai, hein, encore plus qu'ailleurs. Donc voilà. Donc, du coup, la boucle est bouclée, si vous voulez. Les pays dominés, colonisés, mais ayant vocation à devenir indépendants, vont-ils produire de la spécificité, continuer à produire cette spécificité qu'ils ont maintenue pour survivre, ou est-ce qu'ils vont se calquer sur les modèles étatiques qui les ont tant dominés ? Le débat est ouvert. Je vous remercie.